gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir à vous, bonsoir amis auditeurs, amis auditrices, vous êtes bien à l'écoute toujours de Radio Canu sur le 102.2 et sur radiocanu.org partout ailleurs. 22h, c'est l'heure de la causerie et ce soir nous sommes plein de monde dans les studios, mais pas plus que ce que la législation nous autorise bien évidemment, parce que nous sommes très respectueux de toutes ces recommandations. Nous avons donc à la technique Clara.
Bonsoir.
Je présente l'équipe de la causerie au départ. Fab.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir. Ensuite, nous avons aussi Perrine qui est avec nous à côté de Clara la technique.
Bonsoir.
Nous avons Alex aussi qui est là dans les studios invités.
Allez. Bonsoir.
Bonsoir. Et nous avons notre invité record, sous le nom, mieux connu sous le nom de Mathieu Rebière.
Bonsoir.
Voilà, si vous ne l'avez pas entendu à la 236, à la 242 ou à la 388, il est revenu exprès pour que vous l'entendiez à nouveau.
Et il y en a une qu'on a oublié de noter, donc c'est sa cinquième participation à la causerie.
Et je suis très fier
d'avoir ce record,
voilà.
Mais nous aussi nous sommes satisfaits. Alors avant de causer avec Mathieu de BD, vous vous en doutez évidemment, je vais vous rappeler comment nous joindre et forcément, pardon. Donc, oui, Clara, on entend quand tu mets du gel.
Pour montrer que les règles sanitaires sont bien respectées.
Quelle lèche. Alors, pour nous envoyer un mail, évidemment, vous n'hésitez pas, c'est à lacausericanu@gmail.com, tout attaché en minuscules, lacausericanu@gmail.com. Vous retrouvez évidemment toutes les émissions passées et à venir.
Ah bah surtout passé.
Oui, mais à venir aussi, on se projette, tu vois, il y a quelque chose de multidimensionnel. Donc c'est sur le blog de la causerie, donc c'est à blogs, avec un petit S à la fin, donc blogs.radiocanu.org/la causerie, ou sinon dans votre petit moteur de recherche, quel qu'il soit, vous tapez la causerie canu, et normalement vous tomberez sur nous. On a aussi une page sur un réseau socio-commercial qui appartient à Marc Z, on ne dira pas plus. Et vous nous retrouvez aussi sur différentes plateformes d'écoute.
De podcasts surtout.
Podcasts, machin. Et on y sera, donc n'hésitez pas. Voilà, je crois que j'ai absolument
et
tout dit.
On vous y sera, qu'est-ce que ça voulait dire?
Non, et on y sera.
Ah, d'accord.
Et ouais, je vais dire, vous nous y retrouverez et on y sera. Enfin, tu vois, c'est...
Allez, on va démarrer avec notre invité quand même, Mathieu. Merci d'être avec nous.
Eh bien, ravi d'être là de nouveau. Et puis pour en studio.
Bah oui, en
studio. La fois précédente, c'était donc en visio. Donc,
ouais, c'est mieux.
Un plaisir.
Hein.
Ouais.
Pas la meilleure énergie quand même. Et plein de chaleur humaine dans le studio.
Donc voilà.
Mathieu, quand même, on va essayer de, même si tu es déjà venu, rappeler qui tu es parce que tout le monde n'écoute pas la causerie tout le temps, on en est conscient. Donc voilà,
ils ne savent pas ce qu'ils ratent les gens, mais après.
Bon.
Ah, ouais. Donc est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton parcours, qui tu es, ça?
Eh bien, avec plaisir. Donc je suis un prof d'histoire-géographie et un auteur de bande dessinée. Donc je suis membre de l'Épicerie Séquentielle, l'association qui produit la revue Les Rues de Lyon, en autoproduction depuis 6 ans. On est à plus de 80 numéros à présent. Et bien par ailleurs, donc je viens de réaliser l'album pour lequel je suis là ce soir, donc L'Évasion, que je suis content de présenter avec vous.
Alors, il y a longtemps que tu fais de la BD ?
Alors, ça fait, en fait, quand je suis passé la première fois à la causerie, donc en 2017, je pense.
C'est ça.
Ben, ça faisait un peu plus de 2 ans que j'étais sur ce projet, mais je venais à peine de publier pour la première fois. Donc, je souhaitais de devenir vraiment auteur de bande dessinée. Et ben, depuis, je le suis devenu, avec plusieurs numéros des Rues de Lyon et cet album. Mais voilà, donc c'est finalement assez récent que ce soit devenu une grosse part de mon activité chaque semaine.
Alors on va rappeler que tu fais aussi partie de l'épicerie séquentielle. Voilà, qui est... Ah oui, c'est moi, je voulais rebondir. Mais bref, je me suis perdu dans ma propre relance. Revenons. Alors, juste rappeler, on t'avait reçu donc pour les Rues de Lyon. Rappeler donc que ça, cette BD-là, elle est en dehors de ce projet-là. Et c'est ton bébé à toi, on va dire ça comme ça.
Oui, là, c'est vraiment un bébé, pour le coup, qui a mis 6 ans à naître. Plus de 6 ans à naître.
Plus long que les éléphants, quand même. Hein.
Grosse gestation.
Voilà, donc c'est vrai que quand je l'ai démarré, ben, donc, en tant qu'auteur autodidacte, ben, j'arrivais un peu de nulle part. Voilà, au niveau des premiers éditeurs que j'ai démarchés, bon, ben, c'est sûr que je n'avais pas une crédibilité impressionnante. Il aurait fallu prendre un risque, donc ça n'a pas été le cas. Et tout ce que j'ai pu illustrer, ce que m'a proposé le GAMS, donc l'Hadès du Rhône, qui étaient donc des projets pour lesquels donc je suis venu ici à la causerie, voilà, ça a été des premières marches. Et puis il y a eu donc voilà l'entrée à l'épicerie séquentielle qui a été décisive, avec donc plusieurs numéros depuis. Mais là voilà, lui, tout au long de ces années, bah, j'ai porté ce projet et ça y est, voilà, ça y est, il est là.
Vas-y.
Non, je voulais dire, on peut déjà quand même donner le titre, même s'il a déjà été donné. C'est donc L'Évasion, dans la maison d'édition Jargile. Petite maison d'édition aussi. Hein.
Alors, de moins en moins.
Il n'y a rien de péjoratif quand je dis ça, attention.
Ouais, non, c'est une jolie maison d'édition, je dirais surtout, qui donc est à Saint-Étienne. Donc c'est intéressant là pour ce gros sujet lyonnais, parce qu'on reviendra sur le sujet ensuite. Voilà, maison qui a été fondée par des auteurs, justement, il y a des années. Et qui ont une démarche éthique derrière sur l'idée de payer autant que possible correctement les gens avec qui ils travaillent, de porter des projets jusqu'au bout et de faire des beaux objets. Et voilà, c'est donc Michel Jacquet et Serge Deloupi là, qui sont aux manettes. Et là aussi, c'est vraiment une chance de les avoir rencontrés et un plaisir de travailler avec eux.
Alors tu disais de faire de beaux objets, je vais en profiter avant... On parlera plus en profondeur, comme tu disais, du sujet, tout ça, après une première coupure musicale. Mais juste te dire que oui, effectivement, c'est une très belle BD. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un format qui est pas forcément typique, je sais pas comment dire, mais qui est un petit peu plus petit qu'une grande BD habituelle. Mais c'est super beau. C'est bien cartonné. Le papier est assez top. Et c'est un bel objet. C'est ce qui est bien parce que de plus en plus, la BD a tendance à tendre vers le moins beau. Ce qui est un peu dommage. Et donc, du coup, bah voilà.
Ouais, alors, c'est peut-être un petit peu excessif de dire que ça tend vers le moins beau, mais c'est vrai qu'il y a des. Un peu parfois des formats, des matières, etc., choisis qui peuvent être moins satisfaisants. Là, le format, effectivement, est plus petit que les standards auxquels on était habitué auparavant dans la BD franco-belge, par exemple. Mais c'est quand même un format qui commence à devenir plus courant. Et c'est vrai que moi, au début, j'avais un peu peur de ce format. C'est l'éditeur là qui l'avait choisi. Et j'avais dessiné à une autre échelle, en fait, au départ. Et bon, j'ai su qu'il allait sortir à ce format. Et la première fois que j'ai eu dans les mains, c'est vrai que j'avais un peu l'inquiétude. Est-ce que ça va pas faire un dessin un peu plus étriqué? Est-ce que les textes vont être suffisamment... Alors, l'éditeur, lui, était convaincu que ça serait bien. Et il avait raison, je crois. Et c'est vrai que ça donne un objet qui est agréable. Enfin, vous nous le confirmerez, hein, mais vraiment agréable à avoir en main.
Ouais.
Et qui met finalement très bien en valeur, très bien en valeur la BD. Quoi.
Une petite question justement. Enfin, tu dis, toi, tu l'as prévu pour quel format? Un format plus classique, on va dire, ou c'était. Alors, c'est un peu idiot, ou on déborde peut-être, mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que finalement, là, on pourrait se dire, non, mais en fait, ça change quoi? Un format X ou Y? Et toi, en fait, c'est.
En fait, quand je l'ai dessiné, j'ai commencé sur papier. Ouais. Et alors je sais plus très exactement ce qu'était le format en réalité, un peu une espèce de 24-32 mais plus large finalement, donc pas 24 au bout du compte, plus large, parce que c'est ce qui m'a permis, en fait, pour raconter cette histoire, j'ai voulu quelque chose d'assez simple au niveau au niveau présentation des cases, enchaînement, etc., qui soit très lisible, en fait, pour mettre en valeur tout ce qui était très technique dans ce qu'avait réalisé le personnage donc, qu'on évoque. Et finalement, j'avais besoin, par contre, de donc, 3 lignes par page, mais des lignes assez larges pour que voilà, on puisse développer des cases où les personnages aient la place de se mouvoir. Quoi. Mmh. Et donc, voilà, effectivement, ça, après, en fait, ça rend bien aussi donc, dans le cadre de ce volume, mais c'était un petit peu voilà, la petite inconnue. Okay. Et tout ce... Donc, je disais, j'ai démarré sur papier, et à la fin, au bout de toutes ces années, j'ai fini donc, par reprendre tout sur tablette numérique. Et donc, parce que mon dessin avait pas mal évolué finalement sur toutes ces années de travail, et donc j'ai repris tout de manière homogène à ce format.
Alors, comme en fait il faut avoir l'art du teasing en radio, c'est ce qu'on dit, on va quand même dire que ça s'appelle L'Évasion, Lyon 1943. Et là, donc il va falloir que tu nous fasses un petit pitch en 3 mots, 3 lignes qui donnent l'envie aux gens de rester le temps de la musique. Ah bah écoute, c'est ta 5e participation, maintenant tu...
Tout à fait, non, puis on a déjà assez ménagé le système.
Le système.
Non, ménageons... Le système, non, c'est pas Radio Canut, voilà.
Ne ménageons pas trop le système.
Donc, alors cette bande dessinée, elle raconte l'histoire vraie de l'extraordinaire évasion d'André de Vigny de la prison de Montluc, qui est donc le seul résistant à avoir réussi à s'en évader de l'intérieur en 1943.
Et ben voilà, donc si vous voulez en savoir plus, il va falloir rester le temps d'une petite musique et on se retrouve juste après.
Thank you.
J'espère que tu as sorti tes épis de maïs pour écouter ce morceau. Et vous êtes bien de retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org. Et on vient donc d'entendre, alors Mathieu, c'est toi qui as choisi la musique, hein, donc on va te laisser présenter tout ce beau monde.
Oui, alors c'est une musique de The Brothers. C'est donc... Ah oui, pardon, je suis un peu...
Là, on est à la radio, c'est pour ça que je suis dans le micro.
Non, à la cinquième, là, quelle faute, c'est vraiment géante. En fait, j'ai choisi cette musique, alors... parce que le titre évoque en plus donc la situation d'un homme qui est bloqué devant le mur là au Mexique qui l'empêche donc de passer. Donc pour une bande dessinée moi sur un prisonnier, il y avait un peu des réminiscences. Surtout donc j'ai choisi ce soir de présenter que des musiques, pratiquement que des musiques donc faites par localement là par des artistes lyonnais. Et là c'est Hugo et Théo qui forment le groupe donc The Brothers. Et Hugo en fait a été notre voisin. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu de mon travail quand j'ai repris toutes mes planches tout au long de l'année 2020. C'était l'année du confinement. Et ce confinement, ça a été un moment particulier pour mon travail, puisque même si j'ai continué à faire mes cours en ligne, ça me faisait 1h30 moins de voiture par jour, ça me faisait pas de trous dans la journée. Donc ça a été un moment où j'ai pu être très efficace sur ce travail. Et en même temps, ce moment de confinement, ça a été un moment très fort dans notre rue, où les voisins ont appris à se connaître, où les gens ont chanté ensemble chaque soir, notamment parce qu'il y avait pas mal de musiciens, et notamment il y avait Hugo. Et Hugo et son frère, là, donc, font de la bonne musique.
Tout à fait.
Entre autres groupes auxquels participe Hugo, et donc je souhaitais le faire découvrir ce soir aux auditeurs de Radio Canu.
Eh ben, très bien, c'est donc, à ça que ça sert Radio Canu.
Ouais, puis comme on disait à la prépa, BD locale, musique locale.
Ouais, exactement.
Voilà.
100% local. Donc on rappelle quand même, hein, Mathieu Rebière est avec nous. On parle ce soir de son bébé qu'il a mis de longues années à coucher. Donc c'est L'évasion Lyon 1943, c'est aux éditions Jargil. Et alors, avant cette musique, Fab t'a lancé le truc de faire un teaser. En fait, on peut essayer peut-être juste un tout petit peu d'en parler. Enfin, moi, je sais déjà, j'ai découvert cette histoire. Et c'est marrant parce que toi-même, tu l'as découverte en préparant, justement, en lien avec ton métier, on va dire, premier, c'est-à-dire prof d'histoire. Donc, tu étais allé visiter un lieu, préparer une visite d'un lieu, la prison Montluc, dont on a aussi déjà parlé avec Adrien quand tu étais venu autour des rues de Lyon. Et donc... Ouais, en fait, c'est ce gars en fait qui va s'évader de cette tôle. Et toi, en fait, tu t'es dit, mais attends.
Ouais, c'est ça. En fait, quand fin 2014, je suis allé préparer la visite de la prison donc de Montluc à Lyon, donc qui est près de la manufacture des tabacs, près de Lyon 3, là, pas très loin de la gare pas très loin de Pardieu pour ceux qui visualisent vraiment pas. Et donc en fait ici il y a une prison qui a eu presque un siècle d'existence et qui a joué un rôle majeur dans l'histoire nationale et puis lyonnaise surtout pendant toutes ces années et en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la prison qui accueillait les juifs, les résistants avant déportation et exécution. Ça a été ensuite une prison qui a continué comme ça à exister et les Lyonnais la connaissent souvent comme la prison des femmes puisque c'est comme ça qu'elle a continué jusqu'en 2009 où là, donc, les femmes finalement détenues sont parties vers Corba, et où la prison a failli être détruite. Et puis, donc, un collectif s'est créé pour sauver ce lieu de mémoire. Et donc, c'est désormais un mémorial qui est très bien mis en valeur et qui est accessible. On peut aller y faire des visites, visites guidées ou visites libres pratiquement tous les jours. Et je ne peux que le conseiller vraiment aux gens, surtout s'ils y vont avec la BD et leur histoire, puisque comme ça, ils pourront, dans les lieux, retrouver tout ce qu'ils auront vécu à l'intérieur.
Donc, préalable, acheter ta BD,
ah oui,
ensuite aller.
Oui, non, parce évidemment. Que sinon, bon. Quoique, on peut peut-être faire l'inverse également. Voilà. Et donc, je suis allé préparer la visite que j'allais y mener avec mes élèves. À l'époque, j'étais sur un autre projet de BD. Et là, voilà, Adrien Allier, donc, qui a organisé la visite, raconte l'histoire incroyable de cette évasion. Et là, je réalise qu'il faut absolument raconter cette histoire, elle est incroyable. Et on bénéficie, en fait, de ce côté huis clos, de pouvoir être sur les lieux, d'avoir tous ces lieux accessibles pour les remettre en scène, des archives du mémorial pour recréer les éléments qui ont changé avec le temps. Et donc voilà, donc c'est un sujet merveilleux, et je décide donc de le prendre en charge, d'abandonner le projet initial pour me lancer là-dedans.
Pour ceux qui n'ont pas la mémoire ou qui ne sont pas de Lyon, qui nous écouteraient, la prison Montluc, vous l'avez sûrement aussi connue quand Klaus Barbie avait été mis une semaine en prison à Montluc pour en fait lui montrer là où il faisait enfermer les gens.
Ouais, Klaus Barbie, voilà. Effectivement, donc c'était connu comme le bourreau de Lyon. Ouais. C'était donc un responsable du Zippo SD. Alors souvent on dit la Gestapo, mais donc le Zippo SD, donc était le service de sécurité du Reich allemand qui donc de sinistre mémoire pour leurs œuvres, notamment ici. Klaus Barbie donc a été extradé au début des années 80, avant son procès en 87, et là au début des années 80, symboliquement, il a été donc enfermé à Montluc. Alors, très peu de jours, hein, puisque l'idée, oui, c'était symbolique, voilà, puisque la prison n'était plus du tout apte à recevoir un prisonnier comme ça aussi important. Mais effectivement, voilà, donc les gens la connaissent également à travers ça. Et c'est là que Jean Moulin, c'est là qu'il avait enfermé Jean Moulin, Raymond Aubrac, en 1943.
Et des milliers d'autres personnes,
bien sûr,
qui sont passées par cette prison.
Mais d'ailleurs, je rencontre souvent en dédicace. Attends, il n'y a pas une fois où en dédicace, je ne rencontre pas quelqu'un qui me dit mon grand-père, voilà, ou pour des plus jeunes, mon arrière-grand-père, etc. Il était mon père, parfois, pour des gens plus âgés, était à Montluc. Ouais.
Oui, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, on est monté à plus de 1000 personnes pour 127 places. Pour se rendre compte un peu des conditions.
Mon personnage, là, effectivement, André de Vigny, donc lui, a eu, entre guillemets, la chance d'y être en 1943, d'être seul dans sa cellule, ce qui va lui permettre de préparer, donc d'essayer de mettre en œuvre cette évasion. En 1944, on est parfois à 8 dans ces cellules, de 2 mètres sur 2 mètres et demi. Quelque chose qui impressionne toujours les élèves et qui impressionnera les visiteurs. Voilà, vous mettez dans cette cellule, vous tendez les bras, et déjà, quasiment, vous touchez les deux murs, et là, vous pouviez être 8. Ouais.
Et toi, justement, il y a quand même ce rapport à l'histoire. Enfin, je pense que c'est quand même une autre passion. Il y a la BD, il y a le dessin et il y a l'histoire. Parce que finalement, les rues de Lyon, quand tu as fait l'autre front, il y a aussi cet attrait pour l'histoire et pour le dessin. Et justement, en fait, de pouvoir justement accéder à ce lieu, de pouvoir... parce qu'il y a un vrai... Enfin, il y a la fin, en plus, il y a toute une partie historique, etc. En tant que justement dessinateur, qu'artiste, etc. Enfin, comment, enfin, je sais pas comment dire, comment ça ajoute un plus dans justement dans l'exécution de ton dessin, dans pouvoir s'appuyer sur quelque chose qui a finalement été réel. On n'a pas besoin de faire appel à l'imaginaire. Tout est là devant toi. Est-ce que ça complexifie la chose? Est-ce que ça...
Alors moi, c'est un plaisir, hein, parce que je pense qu'on peut, voilà, on peut faire d'excellentes bandes dessinées complètement dans de l'imaginaire. Mmh. Ou en la plaçant dans un contexte historique, c'est clair que pour moi c'est la croisée de passions. Mmh. Et par contre voilà, j'avais pas du tout envie de faire une bande dessinée didactique, essayant de complètement exposer une période en insistant bien sur regardez il y a ci, il y a ça. En fait, l'évocation du contexte, elle est saupoudrée, elle est comme ça. Des lecteurs ne la verront pas d'ailleurs parfois, des lecteurs au contraire s'attacheront à un détail, peut-être la verront-ils à une deuxième lecture, une troisième, etc. s'ils le font. Voilà, c'est l'idée. Le contexte, il est là, c'est un plaisir supplémentaire, puis un rôle qu'on peut donner aussi à cette bande dessinée de permettre à un public de se faire une idée de ce qu'était aussi la vie sous l'occupation à Lyon à travers elle. Mais... en premier lieu, voilà, il fallait que cette histoire soit une bonne histoire, voilà, une aventure, qui soit plaisante, intéressante, haletante, c'était ça l'espoir, et dans un contexte historique.
Ben, je vais compléter un peu ce que tu dis d'un point de vue du lecteur. Moi, clairement, c'est pas. Alors, la BD, c'est pas un cours d'histoire du tout. C'est plutôt un contexte historique. C'est plutôt ça, moi, que j'ai vu ça. Et c'est haletant. Enfin, je le dis, c'est-à-dire que on démarre. Ah non, mais vraiment, on démarre cette. Alors déjà, je rappelle qu'à la causerie, on ne reçoit que les gens dont on a aimé ce qu'ils font. Donc voilà. Donc ne vous attendez pas à ce qu'on dise du mal de ce qu'on présente. Mais en tout cas, ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment haletant, c'est-à-dire qu'on est emmené dans cette histoire-là. Et en fait, quelque part, on se dit, mais je vais faire exprès un grand écart. Ça pourrait se passer dans un monde totalement fantasmagorique, ou ça pourrait se passer de nos jours, ou voilà. Le contexte historique, il a son importance, évidemment, parce qu'il explique le pourquoi de cette prison, tout ça et tout. Mais finalement, l'instinct de vie qui traverse ce héros, cette envie de se dire, il faut que je sorte parce que il est pas possible que je reste là. Ces connaissances qu'il avait, enfin tout ce qui est en lien avec sa propre vie, qu'il met en œuvre pour avoir ça, mais c'est passionnant et c'est haletant. C'est-à-dire qu'on est là, on tourne une page, on se dit non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui va lui arriver, et on retourne et ainsi de suite et ainsi de suite. Et vraiment, on a c'est une BD qui se lit avec je sais pas comment dire ça, mais comme aujourd'hui on dit souvent, on dit il faut que ça emmène les gens, et vraiment on est emmené, c'est-à-dire qu'on a envie de savoir ce qui lui arrive, on a envie de
comment il va s'y prendre, est-ce qu'il va arriver, est-ce que quand il y a un militaire, enfin
un Allemand
qui arrive à la porte, merde, il va se faire griller, etc. Enfin vraiment, c'est t'as
oui,
raison,
c'est très haletant.
On est vachement pris dedans en fait.
Non mais je dis ça parce que souvent les gens ont peur de lire des BD qui se passent dans un contexte historique en disant ah là là, on va encore nous faire un cours d'histoire ou autre chose comme ça, même si je ne doute pas que tes cours d'histoire étaient bien aussi, c'est pas mon propos.
Je viendrai une fois pour en parler.
Une septième fois.
Non mais c'est vrai, enfin moi je trouve que voilà, il y a vraiment un côté on rentre, on s'attache au héros, on s'attache aussi au contexte, on s'attache aux gens qui entourent le héros, et en fait finalement on est emmené quoi, complètement, et c'est hyper agréable, vraiment.
Bah merci, voilà, bon, c'est, dans ce cas c'est parfait. En fait par rapport à cette remarque, ce côté universel que tu soulignais, là, il y a eu un choix scénaristique, c'est que j'ai finalement mis en scène un personnage très neutre, alors que le personnage réel, André de Vigny, donc, est quelqu'un qui a ses convictions religieuses, etc., qui est très un homme de son temps,
oui,
qui est marqué vraiment de 1940-43, et j'ai pas voulu ça. J'ai voulu faire un personnage auquel en fait tout le monde puisse s'identifier à travers son défi. Voilà, on est dans cette cellule, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour s'enfuir ? Donc j'ai enlevé des particularités qu'il aurait pu avoir, et je remercie d'ailleurs sa famille, puisque son fils Serge de Vigny, notamment, vit toujours à Lyon, et dès le départ, voilà, complètement accepté que je prenne cet angle. Ça les a pas gênés qu'on oublie en fait dans la BD qui était précisément André de Vigny, pour s'attacher à son énergie, à son imagination, voà, auquel tout le monde pouvait s'identifier.
Bah, moi clairement je trouve que ça donne vraiment envie de le connaître après. Je sais pas comment dire, c'est-à-dire que cette espèce de moment rocambolesque qu'on va vivre avec lui, et les rebondissements qu'il va y avoir, donne vraiment envie de se dire mais qui était ce gars qui a réussi ça, quoi, en fait, parce que c'est surprenant en fait, vraiment.
Et le dossier historique permet de connaître un petit peu justement son parcours, même après cette aventure.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il y a justement ce côté, finalement, c'est une création, c'est-à-dire il y a un fait, c'est-à-dire l'évasion de cette personne, mais après, tu as créé des rencontres entre des gens qui ne se sont pas réellement rencontrés, mais tout ça, ça glisse vachement bien, en fait, ça fonctionne vachement bien, et c'est là où après, justement, le dossier historique derrière vient, en fait, ramener un petit peu de réalité dans toute cette liberté que tu as pu prendre, et c'est tant mieux, parce que justement une BD ça permet aussi ça, l'art ça permet aussi justement de dépasser, de déborder du réel, et derrière on apprend plus sur la réalité des personnages. Enfin je pense à Elisabeth Bury, à certaines personnes qui l'ont aidé d'une manière ou d'une autre à avoir des infos, à faire sortir de l'information, etc. Et il y a des rencontres qui ont lieu dans la BD qui n'ont pas eu lieu en réel, mais ça glisse vachement bien, et c'est hyper intéressant parce que tu as envie de t'intéresser à tous ces personnages, parce que ils ont pris
notamment des femmes, femmes résistantes.
Et ça aussi c'est hyper intéressant, parce que c'est ce que tu défends aussi un petit peu, c'est de mettre un peu ces femmes aussi en lumière, parce que souvent l'histoire est écrite par les vainqueurs, et souvent malheureusement quels qu'ils soient les vainqueurs, ils effacent toujours les femmes, hein. C'est quand même marrant. Et ce qui fait que, ouais, en fait, on en apprend plein sur des personnages qu'on pourrait dire secondaires, alors qu'en fait, bah, ils sont peut-être pas si secondaires que dans cette entreprise.
Ce qui est très intéressant, là, c'est qu'on a vraiment, et c'est une leçon pour tout engagement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a l'exploit d'un homme, l'exploit d'un individu, mais qui n'aurait rien fait tout seul.
Oui, tout à fait.
Voilà. C'est-à-dire que s'il n'est pas aidé à tel ou tel moment, on le voit dans la bande dessinée, par tel ou tel personnage, ça s'arrête, en fait. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Et en fait, oui, pour en un album de 100 planches, que ça soit haletant, que ce soit émouvant, que ça fonctionne, soit fluide, etc. Il fallait des choix scénaristiques qui impliquaient de jouer parfois un peu avec la réalité. Par contre, j'ai pas joué du tout sur tout ce qui était incroyable, sur tout ce qui relève, voilà, le lecteur, chaque fois qu'il verra quelque chose de fou dans la BD, ça a bien eu lieu. Voilà. Mais par contre, donc effectivement, il y a des personnages qui sont resserrés, il y a parfois des choses qui sont arrivées à 5 ou 6 personnages qui n'arrivent là ici qu'à un, ou des choses comme ça. Et le dossier historique, voilà, c'était l'intérêt, permettait de remettre les choses en place, effectivement. Et c'est... D'ailleurs, voilà, ça a été un choix aussi, c'est-à-dire qu'avec l'éditeur, ça a été une question de pouvoir mettre ce dossier. Je vais vraiment réclamer dans ce sens, il en a compris le but, mais du coup, il y avait des contraintes en termes de nombre de pages, donc il a fallu rescénariser une partie de la bande dessinée pour pouvoir avoir à la fois la BD et à la fois le dossier.
Ouais. Et ben, comme tu nous écoutes depuis bientôt une demi-heure, et tu te dis, mais cette histoire, elle me rappelle un film. Et ben, on va en parler juste après la coupure musicale.
Mais qu'il est bon.
T'en as pas assez. Et que veux-tu maintenant? N'as-tu pas à manger? Sur la tête un toit assez grand. Sinon va, allez va, allez va chercher tout ce que tu n'auras pas. Mais sinon va, allez va, allez va chercher. Et pourquoi tu t'endors? Une vie, on n'en a qu'une. Tes rêves sont-ils tous morts? Ah, tu ne peux pas sans thune. Sinon va, allez va, allez va chercher tout ce que tu n'auras pas. Mais sinon va, allez va, allez va chercher. Yalla. Chaque personne a un don, il suffit de le trouver. Ne le gâche pas pour un patron s'il ne peut pas le remplacer. Chaque personne a un don, il suffit de le trouver. Ne le gâche pas pour un patron s'il ne peut pas le remplacer. Sinon va, allez va, allez va chercher tout ce que tu n'auras pas. Mais sinon va, allez va, allez va chercher. As-tu tout essayé pour vivre libre, heureux? T'es-tu débarrassé de leurs conseils vicieux? Il fallait le faire avant, c'est ce qu'ils veulent te faire croire. Si t'écoutes tous ces gens, après y'a plus d'espoir. Sinon va, allez va, allez va chercher tout ce que tu ne rends pas.
Jusqu'au bout. Et tu es toujours à l'écoute de Radio Canu et de La Causerie, comme tous les dimanches, de 22h à 23h. Nous sommes toujours en compagnie de Mathieu Rebière pour sa BD L'Évasion Lyon 1943. Je vais prendre ma respiration. Aux éditions Jargile, comme d'habitude quand on a un invité, c'est sa playlist. Et là, nous venons d'écouter Yalla.
Voilà, du groupe Ramon Tapoul.
J'adore le nom du groupe.
Voilà, qui a déjà le mérite d'avoir un très bon nom et qui en plus fait de la bonne musique. Et Hugo, donc, participe encore à ce groupe.
Il est partout.
Il est partout, c'est incroyable. Et donc voilà, donc je voulais faire connaître aussi cette chanson.
Et ben nickel.
Alors mais c'était bien franchement, oui. Ouais. Enfin, moi je suis assez fan de ce que Mathieu a choisi.
A proposé. Ouais,
non
c'est
parce
vrai.
Que quand il passe pas son temps en fait à plagier un film pour faire une BD, en fait il est bon, j'arrête de déconner. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un film sur la même histoire finalement que celle que tu racontes dans la BD, on va pas faire comme s'il n'existait pas.
Certainement pas, surtout qu'il est évoqué dans le dossier.
Bah oui, tout à fait. Est-ce que tu veux en parler justement de... Parce que je crois que tu avais découvert le film après avoir découvert l'histoire, c'est ça si je me souviens bien.
Donc quand j'ai donc découvert l'histoire lors de cette visite à Montluc, voilà, l'enthousiasme me prend, voilà, c'est formidable, ça y est, c'est ça, c'est mon sujet. Et déception, rapidement j'apprends que en fait il y a déjà eu un film.
Dont on peut peut-être rappeler le titre d'ailleurs.
Et qui s'appelle donc, Un condamné à mort s'est échappé, de Robert Bresson, qui date de 1951. Et là, bon, voilà, sur le coup, je me dis, ah ben non, ben bon, c'est déjà traité, stop. Et puis après, donc, j'ai vu le film, qui est un film qui est un classique du cinéma français, hein, qui est un film important, qui a eu d'ailleurs un vrai succès public à sa sortie à l'époque. Et néanmoins, donc, ce film, il relève de choix du réalisateur. Donc, il n'aborde, par exemple, pas du tout, donc, le rôle des femmes que j'ai évoqué tout à l'heure. Et, en fait, il n'évoque pas ce qui se passe à l'extérieur de la prison. Il est centré sur le parcours, comme ça, de cet individu confronté à cette épreuve. Et donc, il y avait moyen de faire autre chose. Moyen d'évoquer du coup le contexte en couleur en fait, dans une autre atmosphère et ce contexte extérieur. Et donc voilà, et donc j'ai compris que j'avais quelque chose à faire. J'ai disposé d'autres archives et donc j'ai pu voilà me lancer là-dedans. Par contre, ce film m'a été très utile en termes de documentation, puisque en fait il a été tourné en grande partie dans la prison elle-même. À peine donc moins de 10 ans après la libération. Les réalisateurs du film ont obtenu donc que les prisonniers, puisqu'il y avait des prisonniers, soient sortis le temps du tournage. Et donc voilà. Et donc
ça
sur ces
paraît un peu dingue quand on le
voilà,
dit comme ça.
Ouais. Et donc sur ces images, on bénéficie donc de cette connaissance. Alors voilà. Alors sachant qu'il y avait quand même des parties en studio, bon voilà, faut un peu se méfier. Il fallait aussi ce film l'oublier.
Oui, tout à fait.
Voilà, c'est tellement les scènes qui se déroulent, tout ça, on peut tellement être habité par celle-ci qu'on peut avoir tendance à reproduire exactement la même chose. Or, c'était pas le but. Donc, heureusement, comme il m'a fallu 6 ans pour faire cette bande dessinée, il y a un moment où j'ai pu complètement arrêter de regarder le film et voilà, et faire ma propre interprétation.
Ouais, moi, mais après, je sais pas si vous voulez une réponse à une question en direct avec ça en lien.
Non, c'était juste pour dire aux auditrices et auditeurs que moi qui ai vu le film et qui ai lu la BD, ça n'a rien à voir. Bresson avait une tendance à être assez sur le côté héroïque et presque super héroïque de son personnage. Et c'est pas du tout négatif, mais c'était un peu son cinéma. Hein, donc voilà. Moi, je trouve que tu le réhumanises en fait dans ta BD et justement en réélargissant avec ce qui se passe aussi à l'extérieur, d'un seul coup, ça réhumanise le personnage et on se dit, c'est un humain qui a fait ça.
Ça me plaît bien que tu dis ça. Effectivement, dans le film de Bresson, c'est un personnage un peu christique.
Ah, tout à fait.
Et là, effectivement, j'ai tâché. En fait, ce personnage, d'ailleurs, je n'ai pas cherché à le faire ressemblant à André de Vigny, d'ailleurs. J'ai crayonné des personnages. D'ailleurs, il a eu toutes les sortes d'allures, mais des choses très différentes. Il a été chauve, même parfois. Il y a eu absolument tout. Et un jour, il est arrivé tout seul, quelque part, j'allais dire. Un jour, j'ai fait une tête, un visage, le visage qui est sur la couverture. Il y avait ce regard, il y avait... que j'ai eu beaucoup de mal après à refaire, d'ailleurs, pendant quelques jours, pour retrouver. Je savais pas ce que j'avais fait, là, mais voilà. C'était ça, c'était lui. Et par contre, effectivement, il n'est pas hors du commun, ce personnage. Il a des fragilités. Alors justement, André de Vigny, ça c'est intéressant. André de Vigny, lui, il est blond, yeux bleus, mâchoire carrée, athlétique, etc. C'était un Buck Danny, pour ceux qui connaissent un petit peu la bande dessinée, quoi. Donc voilà, un personnage de héros de BD des années 50 ou comme ça. Et ça allait pas du tout dans ce que je voulais créer, c'est-à-dire cette possibilité que n'importe qui se dise, voilà, je suis ce personnage, je suis là, et je vais tenter de m'en sortir.
Mais moi, je voulais justement revenir un peu sur, sur l'évolution en fait, de ce projet. Parce que comme tu le disais, hein, il a 6 ans de gestation. Et je trouvais que c'était intéressant d'aborder un petit peu ce truc-là, parce que finalement, c'est aussi une aventure collective qui enrichit tes capacités individuelles. Parce que c'est ce que tu disais, enfin, t'es revenu quasiment sur tout ce que tu avais pu dessiner il y a 6 ans, justement au contact aussi dans l'épicerie séquentielle d'autres dessinateurs, dessinatrices, de techniques, etc. Je sais pas si tu peux en parler un petit peu, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de se dire qu'en fait oui, en fait, mais les aventures
comme,
collectives.
C'est un peu comme lui, voilà, c'est l'effort personnel d'un individu, mais qui n'arrive au bout que grâce à l'aide aussi d'autres gens et à des solidarités, à du travail commun. C'est très politique tout ça, c'est, voilà, c'est
oui,
très
oui.
bien. En fait, mes premières planches, je les ai faites donc sur papier, comme je disais. J'ai tenté à l'aquarelle, j'ai tenté au brush marker, j'ai fait voilà, pas mal de choses comme ça. Et en publiant au sein de l'épicerie, donc j'ai fait un premier donc numéro pour lequel j'étais venu, donc qui était Second Front là sur la guerre d'Algérie à Lyon, où là qui est dessiné sur un papier donc qui permet d'utiliser le brush marker de manière très très pratique, mais qui laisse pas le droit à l'erreur. Ensuite, j'ai participé au coffret Lyon 14-18, un très beau coffret collectif, très belle aventure collective là encore avec l'épicerie séquentielle, et là ce que j'avais fait sur papier a été numérisé et j'ai fait les couleurs sur tablette. Et ce sont des membres de l'épicerie qui m'ont formé à l'utilisation de Photoshop, de choses comme ça. Et aujourd'hui, la bande dessinée, en fait, c'est plus l'éditeur. Quand, il y avait quelques années, il y avait une très belle exposition d'Hugo Pratt où on voyait des planches originales de Pratt. Et puis finalement, ben, c'est des trucs faits sur des morceaux de papier avec du blanc, des trucs, des retouches. Puis c'est l'éditeur qui, après, se fatigue à remettre ça correct, d'aplomb. Ouais. Etc. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus tout ça. Hein. C'est les auteurs, puisqu'il y a ce matériel numérique, qui prennent à leur charge tout ce temps de gommage, des aspérités, de gestion des blancs, gestion des noirs, gestion des couleurs, etc., etc. Et donc j'ai acquis effectivement au contact de l'épicerie séquentielle un savoir-faire qu'ensuite j'ai pu remettre en œuvre. Et quand j'ai décidé effectivement que tout ce travail, ben, il devait être réhomogénéisé et avec le niveau professionnel que j'avais acquis entre-temps bien meilleur que celui que j'avais quelques années auparavant, eh ben, la décision, voilà, ça a été de tout refaire, voilà, d'investir dans cette Cintiq, là, une tablette sur laquelle on peut dessiner directement comme si on avait un écran, avec un stylet que l'on peut régler à sa main. Donc on retrouve, moi je trouve qu'on retrouve complètement la sensibilité qu'on peut avoir avec
le crayon.
Voilà. Et sauf que là, on a le droit à l'erreur pour le coup.
Et ça,
donc,
c'est
je
bien.
Trouve ça assez libérateur. Voilà, on peut revenir, on pourra revenir sur les couleurs peut-être ou comme
ah
ça.
Mais j'allais,
je crois, voilà.
J'allais relancer là-dessus justement parce que, alors, je disais que c'était un bel objet, mais en plus, ta PD est très belle. C'est-à-dire que, alors, le trait déjà, il est superbe, mais la coloration. Enfin, je veux dire, moi, je l'ai ouvert avant même de la lire, quand on commence à feuilleter. Il y a un ton quasi sépia par moment. Il y a une sorte d'aquarellage, je ne sais pas trop comment dire, des personnages et de l'environnement. Et j'y ai presque retrouvé ce qu'on peut trouver dans certains anciens mangas japonais où on essaie d'utiliser un peu les effets de couleur par contraste. Enfin, elle est super, mais alors comment t'es arrivé à ce résultat ? Parce que, enfin, vraiment, c'est très beau.
Merci. C'était un vrai enjeu parce que j'ai tout refait en noir et blanc. Donc j'avais toutes mes planches, là, mes 107 planches noir et blanc. Et effectivement, vient le moment de la couleur. Alors je l'avais toujours eu en tête, cette question de la couleur. J'aime faire les couleurs sur les rues de Lyon précédent. Donc j'avais pris beaucoup de plaisir à faire les couleurs. Mais là, il y avait une nécessité de couleurs un peu réaliste, un peu... qui parle, quoi, qui soit pas, et notamment qui ne soit pas criarde. Et mes premiers tests là sur la tablette, effectivement, ça donnait des choses qui ne collait pas du tout avec, avec mes intentions. Donc ça n'a pas été évident pendant tout un moment. Et puis, donc, je peux dévoiler un peu une recette de cuisine.
Tu veux, sinon tu gardes tout pour toi.
En fait, elle fonctionne, là, ces couleurs-là, elles fonctionnent bon, sur un système de calque hein, classique sur Photoshop. Donc il y a une dimension de couleur brute. Voilà. Ensuite, un calque avec des ombres, des ombrages, etc., qui donne ce petit côté aquarellé dont tu parlais. Et puis, en fait, la trouvaille, ça a été de trouver une photo de mur en béton sur Internet. Et avec ces photos, en gérant l'opacité, en mettant, alors notamment sur les personnages, il n'y a qu'une petite épaisseur légère qui fait qu'on a ce petit côté un petit peu ombré qu'on a quand on est dans une pièce, un peu sombre, ouais. Etc. Comme des petits pointillés, là, légers, mais... Et sur les murs, il y a plusieurs épaisseurs. Et donc là, on a l'impression de ce crépi, de ce béton, justement, qui était désiré. Et puis ensuite, en venant enlever par petites touches, ici ou là, eh ben, on a cette impression d'une lumière qui bouge, comme on a en fait dans une pièce au naturel. Donc, et voilà. Et là, une fois que j'ai trouvé ça, alors je ne sais plus à quelle page c'est, là, il y a une case, en fait, où le personnage est assis sur son lit. Je crois qu'il explique qu'il faut très vite qu'il se remette, qu'il se réinstalle comme s'il était... comme s'il n'avait rien fait. On voit juste un ray de lumière, la porte entrouverte, et lui, il est là. Ben voilà, j'ai fait cette case, et après, c'était bon. Ça y est, voilà, j'avais la technique pour faire le reste. D'ailleurs, je l'ai gardée, elle. et puis, j'ai fait les autres autour progressivement. Et ça, c'est vrai que c'était extrêmement libérateur. Et du coup, en fait, la fin, parce que ça doit faire 6 mois de colorisation. Parce que donc, je suis toujours, il faut rappeler que je suis toujours professeur
oui,
pendant
c'est
ce
ça,
temps-là.
Oui, voilà. Tu l'as fait.
Mais... alors il y a aussi il y a eu les mois d'été où j'ai tout le temps travaillé sur ce sujet. Merci à la famille d'un peu partout, la belle famille, le grand-père de ma femme qui m'a mis à disposition sa maison pendant tout un temps, comme ça. En fait, ça a été très agréable. C'est-à-dire, je savais ce que je faisais. Donc là, il n'y avait pas d'angoisse, pas de doute, comme quand on essaye de dessiner sa planche et qu'on peut rater cet effet, rater ce dessin. Là, ça a été un petit bonheur de faire toutes ces couleurs jusqu'au bout.
Alors, en plus, le rendu, pour moi, colle extrêmement bien à ton histoire, enfin, c'est clair. Mmh. Bien sûr, l'évasion Lyon 1943, on imaginait bien que les gens n'étaient pas habillés très colorés, n'avaient pas... Voilà, dans une prison, on n'a pas avancé pour l'idée de se dire... Mais en plus, moi, dans le rendu, il y a quelque chose qui moi, m'a beaucoup touché et beaucoup plu, c'est que ça vient rendre les expressions de visage de tes personnages encore plus prégnants. C'est-à-dire que moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, vous le regarderez sur le blog, hein, mais la pochette, la couverture de la BD, vous avez le regard plongé, le personnage vous regarde directement au fond des yeux, et ça arrive plusieurs fois dans la BD en fait, en réalité, et même dans les jeux de regard entre personnages, et j'ai vraiment trouvé ça très très beau, parce que ça, ouais, encore une fois, ça remet de l'humain dans une aventure qui pourrait être celle d'un Superman, alors qu'en fait, nous, on a même des regards de doute par un moment, on a même des regards de peur, de crainte, des choses clairement. Comme ça, et on est vraiment plongé dans cette atmosphère j'allais dire horriblement carcérale et poisseuse qu'on sent avec quelqu'un qui a envie lui de rester un petit peu lumineux dans tout ça pour dire je vais partir en fait mais pas partir comme d'autres partent, lui il veut partir par le mur et s'en aller quoi.
Oui, c'était un peu ma priorité dès le départ, c'est-à-dire qu'on est dans un huis clos entre des murs de prison. Et je voulais vraiment travailler sur les expressions et les mains.
Oui, c'est vrai.
Parce que c'est ses mains aussi qui vont faire tout ce travail qui va lui permettre de sortir. Et donc, effectivement, jeu de regard, expression, mains, ça court à travers l'ensemble de l'album.
Bah, c'est bien rendu.
Chouette.
Alors, je coupe ce petit, cette petite amitié qui est naissante. Ah, je déconne. On va se faire une petite coupure musicale.
Une
musique.
Amitié naissante à la 5e fois.
On va se faire une petite coupure musicale et on attaquera la dernière partie de la causerie, toujours en compagnie de Mathieu Rebière. On y go.
Okay. And so I wake up in the morning like, what's on the news? I switch it on, I'm seeing girls in the nude. What's that, man?
Well, that's just an ad full of crap.
What's that, then?
Well, that's another ad
for the crowd. Ah, never mind, I switched to something else. I wish I had something to eat, I guess I'm tired of my belt. Oh, jeez, here's Trump again, reminiscing by the time someone else is to blame. You got politics on one side, us on the other, playing with our minds, bouncing to one another. Oh, we never want to get with that, never till you can find the heaven ain't a place to buy. Well, never when I think about it, my nose bleeds. I get the chills, keep thinking about the price of the government pills. So just keep your focus on the white lies, move your troubles to the bright side. You got 2,000 problems, you just gotta live with it. Mosquitoes in your tent, you just gotta live with it. Your ex gone out the world, you just gotta live with it. And the red wine on your white shirt,
I was born in the darkness of Babylonian empirical reign. They said I had to live with it. The Most High took me by the hand and said, son, you better stop living in vain. Ain't gotta live with it. My name educated me in saying vanities and sanity, infecting the path of our destiny. The devil's working tirelessly to keep our minds wrapped up in our ignorance. So how can we see? So I accept, believe, receive you. They walk the earth as son divine. Man whose wisdom is extraordinary. Piety superb. He is the eleemosynary of a benevolent one. So we sing, take me to the east. I'm crying, you know, Tabba. Take me to the east and don't leave me in the west. Take me to the east and bless the rhythm in my prayer.
Right, yeah. And you got 2,000 problems. You just gotta live with it. You just gotta live with it. Your ex gone out the world. You just gotta live with it. Spill the red wine on your white shirt. You just gotta live with it.
De retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. Une musique à écouter avec un verre de whisky à la main. Et qu'était... Je ne sais pas pourquoi. Mais qu'était-ce donc, Mathieu?
Alors là, c'était le Clark's Bowling Club, que vous retrouvez facilement voilà, sur des plateformes notamment. Alors là, cette fois, donc, ce n'est pas Hugo.
Non, oh. C'est vrai.
C'est Manu, son coloc. Qu'est-ce que donc, il y avait donc une équipe fantastique comme ça, en face de chez nous, de l'autre côté de la rue, avec qui nous n'avions jamais discuté jusqu'à ce que le confinement ait lieu, et avec qui désormais nous sommes toujours amis. Et donc Manu, lui, est un... en plus d'être un biologiste de haut vol, est un pianiste non moins bon et qui participe donc à ce groupe. Voilà, donc là aussi, j'étais content de passer cette musique.
Alors, on va juste rappeler, Mathieu, que tu es là pour présenter ton livre. Alors, Mathieu Rebière, parce qu'il faut donner ton nom. Et tu es là, pour que les gens te retrouvent, c'est plus pratique. Pour présenter ton livre, L'Évasion, et ta BD. Comment on dit d'ailleurs
une BD? Je crois qu'on peut dire un livre et une bande dessinée. Mon petit garçon de 2 ans et demi sait que je vais régulièrement dédicacer la BD.
Donc voilà.
Et justement, parce qu'il n'est pas sorti hier, la BD elle est sortie au mois de juin.
Oui, elle est sortie au moment du Lyon BD Festival,
c'est ça.
Voilà, au mois de juin. Et donc depuis, elle fait son petit parcours.
Et justement, tu as rencontré donc du monde, tu as fait des dédicaces, etc.
Ouais, j'ai eu le plaisir de faire déjà pas mal de séances de dédicaces en festival ou dans des librairies, comme la librairie La BD, la librairie de Citre Écully. Il y a le café Le Jutard, la Croix-Rousse, qui m'a invité à venir dédicacer. Et à chaque fois, donc tout ça, ça a été de très très bons moments, très très belles rencontres avec le public. Je suis effectivement heureux parce que cet album il a été porté vraiment une nouvelle fois. Je me suis lancé dedans alors que donc je n'avais rien publié, avec la sensation que je pouvais porter ce projet jusqu'au bout, mais donc au milieu de nombreuses incertitudes, parce que quand vous arrivez de nulle part comme ça, déjà que c'est pas facile quand vous arrivez pas de nulle part, que vous avez un petit réseau parce que vous venez d'une école de BD ou de dessin, c'est déjà pas forcément évident, mais alors quand vous arrivez de vraiment tout à fait ailleurs, c'était pas gagné d'avance. Donc je suis content parce qu'il est très bien reçu. Voilà, il y a vraiment des articles de presse BD qui sont très élogieux, voilà. Et au niveau des rencontres avec le public, voilà, c'est pareil. Puis ce soir, il y a vos commentaires qui font plaisir également. Donc, il y a plein de dates qui se profilent. Je suis content d'avance de rencontrer de nouveaux lecteurs.
Et comme vous avez envie de rencontrer Mathieu, on vous mettra toutes les dates sur le blog de la causerie.
Les prochaines en tout cas.
Les 29 prochaines.
Qui nous mènent jusqu'en décembre, et après je renouvellerai.
Donc n'hésitez pas, amis auditeurs, auditrices, à aller justement rencontrer Mathieu. Il est, en plus d'être sympa.
J'accueille tout à fait bien le lecteur.
N'hésitez pas.
Qui sera à ma table.
Je trouve que c'est toujours aussi intéressant d'aller à la rencontre de ceux qu'on peut lire, etc. Et que là aussi, ça démystifie un petit peu aussi l'artiste dans sa bulle et ceux ou celles qui les lisent, donc je trouve que c'est toujours super cool. T'es un mec assez sympa quand même.
Ouais, je reviendrai une sixième fois.
Mais à chaque fois qu'il vient, il se réinvite. Donc ça qui est bien, c'est que les gens savent qu'il va revenir. Ça qui est intéressant. Mais alors moi, du coup, j'avais une question par rapport aux rencontres. Est-ce que tu as pu rencontrer des gens qui sont dans la BD? Parce que tu parlais d'avoir rencontré la famille, j'ai perdu son nom.
De Vigno,
excusez-moi. Et il commence à se faire tard, c'est dimanche.
Ouais, on avait parlé de la famille d'Elisabeth Bury, bien ça.
Donc ça, c'est très joli également. Elisabeth Bury, qui est une héroïne majeure du livre, est une femme qui a eu un parcours extraordinaire tout au long de sa vie. Et elle était encore vivante quand le livre est sorti, donc à plus de 90 ans. Et donc je lui ai envoyé, avec un petit mot. Et hélas, le temps qu'elle puisse découvrir ce livre, donc elle était décédée. Mais du coup, c'est son fils qui a pris la peine de me retrouver. Et qui m'a dit que vraiment ce livre était tombé quelque part à point nommé, étant donné qu'il leur a plu, parce que sinon ça les aurait peut-être dérangés, mais là vraiment ça a été l'occasion d'une transmission vis-à-vis des plus jeunes, notamment dans la famille, pour faire connaître ce qu'avait fait leur aïeul, qui était une femme humble, comme souvent les gens qui ont vraiment participé à des actes de ce genre et qui n'en faisaient, qui n'en parlaient pas. Ça a été très agréable. Ça a été vraiment très très touchant de savoir que dans la famille de Vigny, dans la famille donc Bury Sequestra, les familles se retrouvaient dans ce que j'avais fait, sachant que j'ai eu complètement carte blanche.
Personne ne veut me
demander quelque chose. Monsieur André de Vigny lui m'a même fourni des archives, une lettre notamment qu'on retrouve dans le corps de l'album, qu'avait réussi à faire sortir André. Ça c'est des moments importants.
Eh bien, je crois qu'on approche tout doucement, même très rapidement, de la fin
on
de cette émission. On peut.
Mais peut-être qu'il y a des remerciements.
Oui, est-ce que tu as des remerciements, des bonjours, des. Enfin, tout ça à passer avant la prochaine, la prochaine fois que tu reviennes.
Oui, non, bah alors à la fin de l'ouvrage, donc il y a tous ces remerciements. Et donc d'abord pour l'épicerie séquentielle, effectivement, qui a été ce tremplin vers le fait de pouvoir devenir un auteur. Il y a plein d'autres gens en fait qui ont eu des rôles successifs dans le fait de ne jamais abandonner. Il y a une maison d'édition, les Ronds dans l'eau, avec qui finalement on n'a pas travaillé, mais qui à un moment m'a soutenu dans ce projet. Et si j'avais peut-être pas eu un éditeur à ce moment-là, j'aurais peut-être dit bon ben finalement voilà, est-ce que j'en trouverai un jour. Il y a voilà, il y a d'autres personnes qui à chaque fois ont fait qu'il y avait une perspective. Voilà, et moi je continuais pendant ce temps. Voilà, donc il y a évidemment la famille qui a accompagné tout ça. Il y a donc la maison d'édition, donc Jargy, avec qui je suis content, vraiment content de travailler, qui a très vite cru au projet et qui même pensait qu'un plus gros éditeur s'en emparerait. Voilà. Et moi, en fait, j'ai pas eu envie d'aller chercher un plus gros éditeur, tellement je sentais que là, on pouvait vraiment travailler ensemble. Puis les gros éditeurs, ils avaient pas répondu avant, donc c'était pas la peine d'y revenir. Je trouvais que là, c'était le type de maison d'édition avec qui cet album pouvait sortir en étant tout à fait satisfaisant. Et puis si on arrive peut-être à la...
Ah oui, arrive à la fin. Ouais.
Bah du coup, il y a ma femme et Lisa qui chante en duo maintenant avec Hugo. et j'aurais voulu passer ce soir une de leurs chansons, mais ils sont en train de les créer, elles sont pas encore mixées, mais je vous invite à découvrir ça bientôt. Et en fait, Lisa, je l'ai rencontrée au moment du début de cette aventure. On est allés ensemble à cette visite, à cette préparation. On a découvert ensemble l'histoire d'André Devigny. Et ensuite, du coup, elle m'a accompagné sur toutes ces années. Et cette chanson, elle est au départ de notre relation, celle qu'on va entendre maintenant, Dolly Go Lightly, Tell Me No So I Know. Donc c'est à la fin de cette aventure, quelque part, qui se concrétise aussi à travers cette émission. Bah, je voulais la passer.
Ah ben voilà.
Très bien.
Il est beau ce message.
Merci.
Donc on rappelle, hein, Mathieu Rebière, L'évasion Lyon 1943 aux éditions Jargile. On te remercie encore une fois de te prêter au jeu de la causerie.
Et normalement dans 3-4 mois.
Oui, maximum.
Hein. Et juste si, attends, t'as un site internet non, où les gens peuvent te suivre, etc.
Oui, alors j'ai un site qui vient d'être construit mais qui n'est pas référencé correctement du tout, donc bonne chance, mais j'espère que vous le trouverez.
Bon, en tout cas, on le mettra sur le blog.
Via Instagram, via Facebook. Ah oui, puis ça peut être intéressant pour les lecteurs qui auront apprécié la couverture. J'ai mis sur Instagram et Facebook une dizaine de projets de couverture que j'ai réalisés avant d'arriver enfin à celui-ci. Je crois que c'est assez rigolo de voir ce qui était bien dans chacune, mais ce qui n'allait pas et qui a fini par déboucher sur celle-ci.
Cool. Merci beaucoup.
Merci
pour
à vous.
Ce partage. Et puis ben.
Attends, moi je veux savoir. Perrine, Alex, ça vous a plu, ça va?
Ouais, c'était bien, ouais. bravo.
On va courir aller acheter la BD.
Bah voilà.
Ah oui, si, alors si je peux dire. Parce qu'il y a des librairies qui n'arrivent pas à la voir, parce que le diffuseur en ce moment a des problèmes internes qui font que des fois ça patine ou que c'est annoncé comme n'étant plus en stock. Dans ces cas-là, on peut aller directement sur le site de l'éditeur,
jargile.org,
pour l'obtenir. Ouais.
Ouais.
Pour l'obtenir. Parce que oui, ce serait dommage de ne pas la prendre alors qu'on en a envie.
Exactement.
On mettra de toute façon tous ces liens-là, même de ton site en construction, sur le blog de la causerie. Donc si vous n'avez pas toutes les infos, rendez-vous demain sur le blog de la causerie et vous aurez tous ces liens vers lesquels aller.
Oui, tout à fait. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.
Tout à fait, 22-23h.
Même heure, même punition. Et peut-être qu'il y aura des sons de ce qui s'est passé pour l'association Résiste hier, avec une très belle manifestation place de la République à Paris. Voilà, ou pas, mais vous verrez bien. Vous n'avez qu'à être là la semaine prochaine.
Et on n'a pas d'agenda, mais regardez autour de vous, il peut y avoir des rassemblements, des manifs, etc. etc. Voilà, et ben rendez-vous dimanche prochain, 22h-23h.
Redonnez le titre de la musique quand même avant qu'on se quitte, parce que on l'a dit il y a quand même bientôt 5
minutes. Tell me no, so I know.
Voilà. Yes. Et l'artiste?
Holly Golightly.
Yes.
Et ben merci Mathieu.
Merci Alex.
Perrine, Alex, merci. Clara pour la technique, merci.
Merci Fab aussi.
Ouais.
Merci Jean-Yves.
Mais de rien.
Merci Mathieu.
Merci beaucoup.
Merci tout le monde.
Des bisous.
Allez, des bisous.
Ciao.
Salut.
Au revoir.